Vous écoutez, on lit pour vous.
À propos de la violence fondée sur le sexe. Un texte de la rédaction paru sur le site web Femmes et égalité des genres Canada. Tout le monde a le droit de vivre à l'abri de la violence. Cependant, de nombreuses personnes de partout au pays continuent d'être victimes de la violence chaque jour en raison de leur sexe, de leur expression ou identité de genre ou de leur identité présumée. C'est ce qu'on appelle violence fondée sur le sexe, VFS, et elle constitue une violation des droits de la personne. Lorsqu'on s'y attarde, on s'aperçoit que les racines de la VFS sont partout autour de nous, dans les blagues qui rabaissent les personnes de ELGBTQI+, les personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées et de diverses identités de genre, dans les messages médiatiques qui réduisent les femmes à l'état d'objet et dans les normes de genre rigides imposées aux jeunes enfants. La VFS ne se limite pas à la violence physique. Elle peut également inclure des mots, des actes ou des tentatives visant à dégrader, contrôler, humilier, intimider, contraindre, priver, menacer ou blesser une autre personne. La négligence, la discrimination et le harcèlement peuvent également être des formes de VFS. La VFS sévit dans les espaces publics, les lieux de travail, à la maison et en ligne. Ces effets négatifs vont bien au-delà des personnes qui en sont directement victimes. La violence peut entraîner des répercussions durables et négatives sur la santé, la société et l'économie pour plusieurs générations et peut alimenter un cycle de violence et de maltraitance au sein des familles ou même dans toute une communauté. La violence touche toutes les personnes, mais elle touche de façon disproportionnée les femmes et les filles. Certaines personnes sont plus à risque de subir de la violence en raison de diverses formes d'oppression. Apprenez-en davantage sur les populations touchées et le coût de la VFS. Quelle est la différence entre le sexe et le genre? Le terme « sexe » fait référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui définissent les hommes, les femmes et les personnes intersexuées. Il existe des variations touchant les attributs biologiques qui composent le sexe d'une personne et dans la manière dont ces attributs sont exprimés différemment, ce qui conduit à des caractéristiques qui ne correspondent pas aux notions binaires typiques du corps masculin et féminin. Le terme « genre » fait référence aux rôles, comportements, expressions et identités que la société a associés aux filles, aux femmes, aux garçons, aux hommes et aux personnes de diverses identités de genre. La perception du genre dans une société évolue au fil du temps et varie d'une culture à l'autre. Le genre influence la façon dont les gens se perçoivent et perçoivent les autres, leur façon d'agir et d'interagir, la répartition du pouvoir et des ressources dans la société, ainsi que les résultats sociaux, sanitaires et économiques des individus. Apprenez-en davantage sur certaines formes de VFS. Violence fondée sur le sexe, facilitée par la technologie. La violence fondée sur le sexe, VFS, facilitée par la technologie, également appelée cyberviolence, désigne les comportements dans lesquels la technologie est utilisée pour causer des préjudices virtuels ou en personne. La violence facilitée par la technologie consiste à utiliser la technologie pour menacer, harceler, intimider, embarrasser, agresser, tourmenter, contraindre, exclure socialement une autre personne. Avez-vous besoin d'aide immédiatement? Si vous êtes en situation d'urgence, composez le 911 au Canada pour les services d'urgence de votre région. La VFS facilitée par la technologie peut se produire sur diverses plateformes technologiques et numériques, notamment appels téléphoniques et messages texte, applications pour téléphone intelligent, messagerie instantanée, plateformes des réseaux sociaux, sites web, courriel, site de microblogage, site d'évaluation, salon de clavardage, forum babillard, appareil domestique intelligent, site de jeux en ligne et jeux en ligne massivement multijoueurs, site de diffusion de vidéos. La VFS facilitée par la technologie peut comprendre les comportements suivants. Menaces ou insultes en ligne. Harcèlement en ligne. Traque à l'aide d'un GPS ou de médias sociaux. Fait de forcer un partenaire à partager des mots de passe. Partage d'images sexuelles d'une personne sans son consentement. Piratage. Surveillance suivie. Vol d'identité, harcèlement, polupostage. Pornographie de vengeance. Distribution malveillante. Refus de service. Répercussions. Les répercussions de la VFS, facilitées par la technologie, peuvent être aussi graves et aussi durables que celles de la violence en personne. Les préjudices découlant d'actes de VFS facilités par la technologie peuvent être physiques, y compris maladies liées au stress, psychologiques, émotionnelles, y compris sentiments de honte, de stress et de peur, perte de dignité, incidence sur le statut social, financier, y compris les coûts associés aux services juridiques, services de protection en ligne, salaires impayés, conséquences professionnelles. La VFS facilitée par la technologie peut également accroître les besoins en soins de santé, en services judiciaires et en services sociaux. La VFS facilitée par la technologie peut nuire à la capacité d'une personne à exercer sa liberté d'expression, ébranler son sentiment de sécurité, violer ses droits de la personne et sa vie privée, et entraver sa capacité à participer pleinement à la vie économique, sociale et démocratique. La VFS, facilitée par la technologie, est unique dans le sens où la personne responsable de l'agression peut pratiquement suivre une personne victime ou survivante partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et l'atteindre dans des endroits où elle est toujours allée, où s'est toujours sentie en sécurité, comme à son domicile. Autre caractéristique propre à la VFS facilitée par la technologie. Possibilité d'anonymat. Rapidité. La facilité avec laquelle l'information peut être connue et diffusée peut envenimer rapidement la violence. Accès accru à la personne victime ou survivante. Public élargi. Impossibilité virtuelle d'éliminer les contenus nuisibles. Contact excessif. Atteinte à la vie privée. Comment intervenir? Si vous êtes victime ou témoin d'actes de VFS facilités par la technologie, il existe des moyens d'intervenir. Vous pouvez parler à une personne de confiance, communiquer avec la police, signaler le contenu directement sur l'application ou la plateforme en ligne, demander de l'aide aux services aux victimes locaux. Si vous êtes témoin d'actes de VFS facilités par la technologie sur une autre personne, vous pouvez communiquer avec la personne concernée et lui offrir des ressources. Signaler l'incident aux autorités. Signaler le contenu directement sur l'application ou la plateforme en ligne. Parler de la situation à une personne de confiance. Bien que la technologie, ses utilisations et ses répercussions continuent de changer, certains faits clés doivent être examinés. Population touchée. Selon les données autodéclarées recueillies en 2018, les femmes étaient nettement plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir subi des comportements non désirés en ligne au cours des 12 derniers mois. 18 % contre 14 % respectivement. En 2018, les femmes étaient également plus susceptibles que les hommes de déclarer avoir subi des comportements non désirés de nature sexuelle en ligne, comme recevoir des images ou des messages sexuellement suggestifs ou explicites qu'elles ne voulaient pas recevoir. 11 % contre 7 % ou subir des pressions pour envoyer, partager ou publier des images ou des messages sexuellement suggestifs ou explicites, 4 % contre 2 %. Comme pour les autres types de violences fondées sur le sexe, VFS, en 2018, les expériences de comportements non désirés en ligne étaient plus fréquentes chez les jeunes femmes, le tiers, 33 % des femmes, de 15 à 24 % ayant vécu au moins un incident au cours des 12 derniers mois. La moitié des femmes bisexuelles ont indiqué avoir été victimes de harcèlement en ligne en 2018, tandis que la prévalence était similaire entre les femmes lesbiennes, 21 % et les femmes hétérosexuelles, 18 %. En 2018, 4 hommes bisexuels sur 10, 40 % et plus du quart, 28 % des hommes gays ont été victimes de harcèlement en ligne au cours des 12 derniers mois, comparativement à 12 % des hommes hétérosexuels. Mesures de protection. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d'avoir pris des mesures de protection en ligne en raison de harcèlement en 2018, 28 % contre 19 %. Les mesures prises par les personnes pour se protéger contre le harcèlement en ligne ou pour l'éviter peuvent consister, entre autres, à limiter leur utilisation d'Internet ou leur présence sur les médias sociaux, à bloquer certaines personnes, à supprimer des comptes ou à modifier ses noms d'utilisateurs. Cyber-intimidation. Parmi les utilisatrices ou utilisateurs d'Internet au Canada, environ 17 % des personnes âgées de 15 à 29 ans ont déclaré avoir été victimes de cyber-intimidation ou de cyber-harcèlement à un moment donné, entre 2009 et 2014, ce qui représente environ 1,1 million de personnes. les résultats d'un sondage non représentatif mené auprès de jeunes transgenres au Canada en 2014 montrent que parmi les répondantes et répondants les plus jeunes, âgés de 14 à 18 ans, 39 % ont déclaré qu'une personne les avait fait se sentir en danger en ligne et 33 % ont déclaré avoir été victimes d'intimidation en ligne au cours des 12 derniers mois. Parmi les jeunes transgenres plus âgés, de 19 à 25 ans, 44 % ont déclaré avoir reçu des courriels ou des messages menaçants ou agressifs, 40 % avoir été la cible de commentaires haineux et 30 % avoir été victime de cyber-intimidation. C'était à propos de la violence fondée sur le sexe. Un texte de la rédaction paru sur le site web Femmes et égalité des genres Canada.
Où vont les médicaments périmés? Un texte de Mathieu Perrault paru le 27 juillet 2025 dans La Presse. Comment les pharmaciens se débarrassent-ils des médicaments périmés? Demande un lecteur, Yves Dugré. Ils sont envoyés à des incinérateurs pour déchets dangereux, répond Alain Renard, responsable québécois de l'Association pour la récupération de produits santé, ARPS, financé par des sociétés pharmaceutiques. Ce programme a été lancé seulement l'an dernier au Québec, alors qu'il existe depuis 2007 en Colombie-Britannique et depuis 2013 en Ontario. Malgré tout, 74 % des Québécois savent qu'il faut rapporter à la pharmacie les médicaments périmés plutôt que les jeter aux ordures ou dans la toilette. Cette proportion est de 59 % en Ontario. Citation : Il y a un problème plus grand avec les inhalateurs, les médicaments sans ordonnance et les produits naturels, souligne M. Renard. Moins de gens les ramènent à la pharmacie quand ils sont périmés. Fin de citation. Par contre, bonne nouvelle, les plus grands utilisateurs de médicaments, les personnes âgées, sont davantage au courant de la bonne manière de se débarrasser des médicaments. Avant l'implantation de l'ARPS au Québec, les médicaments retournés par les clients étaient détruits de manière sûre par les pharmacies ou par les regroupements de pharmaciens avec leurs autres déchets médicaux, comme les médicaments périmés non vendus et les résidus de préparation, explique Hugues Mousseau, directeur général de l'Association des bannières et des chaînes de pharmacie du Québec, ABCPQ. Il y avait déjà un réseau de collecte de médicaments dans les cliniques vétérinaires, dit M. Renard. Les codes d'éthique de l'Ordre des pharmaciens et de l'Ordre des médecins vétérinaires indiquent qu'ils doivent accepter les retours des consommateurs, note-t-il. Le nouveau programme de l'ARPS inclut la collecte de seringues et d'objets médicaux coupants. L'ARPS finance le réseau de collecte de médicaments périmés et conclut des contrats avec les firmes d'élimination de déchets biomédicaux. La prochaine étape est d'améliorer la destruction des médicaments, par exemple en récupérant la chaleur de l'incinération, indique Alain Renard. Les efforts de sensibilisation du public au retour des médicaments périmés en pharmacie sont aussi en évolution. Selon un rapport de 2014 de l'Institut national de santé publique, INSPQ, 43 % des Québécois avaient alors chez eux des médicaments périmés que 16 % ont jetés à la poubelle et 2 % dans la toilette. Traitement. Il faut réduire la quantité de médicaments qui se retrouvent dans les ordures ou dans les eaux usées parce que leur élimination de l'environnement est difficile. Citation : Les méthodes traditionnelles de traitement des eaux, la coagulation, la décantation et la filtration, ne fonctionnent pas très bien pour éliminer les produits pharmaceutiques. Fin de citation, dit Mathieu Lapointe, ingénieur civil à l'École de technologie supérieure. Pour bien éliminer les médicaments des eaux usées, il faut utiliser l'ozonation, une technologie coûteuse qui est en voie d'être intégrée au traitement de l'eau à Montréal. Mais cela ne fonctionne pas bien pour tous les médicaments, selon M. Lapointe. Par exemple, l'ibuprofène, Advil, semble résister à l'ozonation. Les médicaments qui se retrouvent dans l'environnement peuvent nuire à la faune. Par exemple, une étude ontarienne parue en 2017 dans la revue Scientific Reports concluait que les poissons exposés à des antidépresseurs étaient plus agressifs et se protégeaient moins de leurs prédateurs. En savoir plus, source Bureau environnemental européen, 100 000 tonnes, quantité de médicaments sous ordonnance consommés chaque année dans le monde. C'était « Où vont les médicaments périmés? » un texte de Mathieu Perrault, paru le 27 juillet 2025 dans La Presse.
Une première galerie d'art sous l'autoroute métropolitaine. Un texte de Roxane Liouzon, paru le 27 juin 2025 dans Le Devoir. 9 artistes muralistes sont en train de donner un nouveau visage à une vingtaine de piliers de l'autoroute métropolitaine près de la rue d'Iberville. Il s'agit de la première étape d'un plan visant à revitaliser ce secteur du quartier Saint-Michel. Ça nourrit l'imaginaire d'avoir des œuvres à l'extérieur, surtout dans un quartier où il n'y a pas vraiment de galerie d'art à proximité. Que ça puisse faire partie du quotidien des gens qui passent par là, je trouve que c'est une richesse qui se rajoute, soutient l'artiste peintre et muraliste Malicieuse. Elle a accepté sans hésiter le mandat de directrice artistique du projet, qui lui a été proposé par le quartier des arts du Cirque, un OBNL fondé par la TOHU, l'École nationale de cirque, le Cirque du Soleil, tous établis à proximité, ainsi que PME Montréal Centre-Ouest. Au-dessus de sa tête se déroule un serpent de béton gris sans fin, où des camions et des voitures circulent à plus ou moins 70 km/h, soulevant la poussière. Mais en dessous, à l'ombre, des touches de vie, de nature et d'humanité émergent. La lumière, les couleurs et les formes fusent. Le contraste est frappant. Kaori Izumia trace des pavots à l'aide d'un petit pinceau, d'un geste fluide, tenant son pot de peinture d'une main. Le pavot est une fleur très forte, comme la communauté ici, à Saint-Michel, raconte cette Japonaise d'origine dont l'atelier est situé dans le quartier. J'ai aussi peint des graines de pavot, puisqu'elles peuvent s'envoler et faire pousser d'autres fleurs. « Je n'ai pas vu beaucoup de fleurs par ici », lance-t-elle en rigolant. La plupart des artistes soigneusement sélectionnés pour participer à cette galerie à flanc ouvert ont un lien avec le quartier Saint-Michel. Ils y ont grandi ou ils y sont établis. Plusieurs d'entre eux louent un espace aux ateliers 33-33 à l'angle des boulevards Crémazie et Saint-Michel. Il reflète également la diversité culturelle du quartier. J'ai peint ma petite fille. Son CPE est juste ici, et moi, j'habite là, explique Brian Byung en pointant le doigt à sa droite, puis à sa gauche. Je passe ici tous les jours, matin et soir. Souvent, on est pris dans le trafic. Et elle va voir son visage, se réjouit-il. Pour moi, c'est un projet super important, affirme pour sa part Mintz, qui représentera sur chaque face de la colonne qui lui est attribuée un personnage symbolisant son épanouissement. « J'ai grandi en partie dans Saint-Michel. L'enfant en moi serait vraiment content de voir que je suis en train de faire une murale aujourd'hui dans mon quartier. » Mintz, qui considère Malicieuse comme une mentor, espère aussi inspirer des jeunes de Saint-Michel à faire des murales, parce que c'est un art qui nous appartient. Marc-Alain Félix, artiste visuel d'origine haïtienne, tient un discours similaire. Pour les jeunes de ma communauté, de voir des personnes qui leur ressemblent et qui travaillent sur des murales, ça envoie le message qu'il y a une ouverture, que c'est possible. C'est important, la représentativité, dit-il. Sur sa colonne fraîchement décorée figurent notamment 2 sirènes turquoises dont les têtes sont remplacées par de gros yeux, sur un fond jaune vif. Je me suis dit que ça allait attirer l'œil, lance-t-il. Des jeunes du quartier ont d'ailleurs été intégrés au projet, notamment pour assister des artistes. C'est le cas de Nasser Haït Amara, 18 ans, mis en contact avec les organisateurs par le biais d'un organisme communautaire local. « Je suis plus musicien, j'écris beaucoup », souligne-t-il. « Participer à ça me permet de contribuer à la vision artistique du quartier et de m'amener des revenus pour investir dans mes propres projets musicaux. » Un premier pas pour le Quack. Ce projet est financé par le Fonds Signature Métropole du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et par le budget participatif de la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Il a nécessité la collaboration du ministère des Transports, de la Ville de Montréal, de l'arrondissement, d'acteurs communautaires du quartier et du poste de police local. Considéré comme un projet pilote, il pourrait être repris dans d'autres portions de l'autoroute 40, croit Charles Mathieu Brunel, directeur général du quartier des Arts du Cirque, Quack. Mais il s'agit surtout de la première initiative lancée officiellement par le Quack. L'idée, c'est de se servir du positionnement du cirque pour développer le quartier Saint-Michel, explique M. Brunel. C'est un quartier qui est fortement négligé depuis toujours en ce qui a trait aux infrastructures urbaines et à la mobilité. Selon lui, l'autoroute est une première fracture au cœur du quartier qu'il est nécessaire de réparer. Son embellissement par l'art n'est qu'une première étape qui pourrait être suivie de verdissement, de réaménagement piétonnier, de pistes cyclables. Un autre axe de revitalisation, soit la rue Jarry, a aussi été ciblé. Des mesures plus précises, écologiques, communautaires et culturelles seront annoncées en temps et lieu, assure M. Brunel. Le Quack souhaite aussi encourager les jeunes du coin à pratiquer diverses disciplines artistiques et à entrer en contact avec le cirque. Est-ce que c'est possible que le cirque contemporain québécois intègre davantage les pratiques qui existent dans ce quartier-ci, qui est déjà très riche en arts visuels, en musique, en mouvement, en hip-hop, en poésie? Pour qu'une discipline puisse évoluer, il faut qu'elle soit métissée, juge-t-il. Le projet du mural sous l'autoroute s'inscrit justement dans cette vision. C'était une première galerie d'art sous l'autoroute métropolitaine, un texte de Roxane Léouzon, paru le 27 juin 2025 dans Le Devoir.